Chapitre 2. Voilà Jeannette. Déranville comptait 31 ans et sa femme 29. Il y avait 11 ans qu'ils étaient mariés et qu'ils s'adoraient comme le premier jour de leur hymen. Il n'était pas étonnant que Déranville eût pour son épouse tous les égards que méritait cette femme, adorable, à son travers près. Quant à ce travers, né pour ainsi dire avec elle, fortifié dès son enfance par les conseils et l'exemple de sa mère, il ne pouvait que s'accroître avec l'âge de Rosalie. Elle n'avait rien d'ailleurs qui l'occupât, pas d'enfant, rien qui pût fixer son attention, sa tendresse. Il fallait bien qu'elle fît quelque chose. Et la dévotion, pour une femme qui n'a rien à faire, est une très grande occupation. Cependant, je le répète, elle ne lui prenait que par accès, et toujours dans l'espoir de devenir mère, d'obtenir du ciel ce que la nature lui refusait. Or ce vœu qui la fixait au pied des autels, c'était une femme de société, bonne, et surtout d'une sensibilité exquise. Tant de qualités devaient bien faire excuser en elle un défaut, et Déranville était trop admirateur des perfections de sa femme pour la tourmenter, pour se tourmenter lui-même, en répétant toujours ce qu'il lui avait dit déjà 100 fois. En rentrant donc à sa terre, après la neuvaine de Saint-Nicolas, Déranville trouva une lettre ainsi conçue. « Mon cher neveu, je suis, vous le savez, l'oncle de votre femme, et je ne puis oublier, surtout dans ce funeste moment, l'enfant de ma sœur, l'intéressante Rosalie, que j'ai toujours aimée, quoique je l'ai perdue de vue depuis longtemps. Apprenez tous mes malheurs. Une maladie épidémique, cruelle, affreuse, a étendu ses ravages sur ma triste famille. Je n'avais que 2 enfants, la petite Vérole vient de me les ravir tous 2, déjà grands, déjà formés. Cette funeste maladie m'atteint moi-même, du moins je le crains, dans le moment où je vous écris. Je suis seul et peut-être vais-je terminer ma carrière. Venez, mes chers neveux, mes enfants à présent, oui, les seuls enfants qui me restent. Venez fermer les yeux d'un oncle, d'un père infortuné. Et si vous le perdez, que ses bienfaits gravent à jamais dans votre cœur sa mémoire et son nom. François Durand, ancien négociant, rue de la Ferronnerie, etc. » Cette lettre fit verser des larmes à la sensible Rosalie, quoiqu'elle n'eût pas vu son oncle depuis plus de 20 ans. Déranville fut sensible sans doute au malheur de la famille Durand, mais il était homme et les calculs de l'intérêt vinrent calmer sa douleur. Quoique riche, il ne put penser sans émotion que si le sort enlevait M. Durand, sa fortune allait s'accroître de plus de 40 000 livres de rente. Cette pensée fit sourire son esprit et, faut-il le dire, elle endormit sa sensibilité. Soudain, il fit ses préparatifs pour partir et, quelques jours après, Déranville, après avoir laissé sa terre aux soins d'un régisseur, monta en voiture avec sa femme, Victoire et son mari Picard, qui fit voler la berline jusqu'à Paris. Là, Déranville descendit chez son ami, M. de Briceval, qui occupait une fort jolie maison, avec un charmant jardin, dans un des faubourgs, à la porte des boulevards Neufs. Briceval fit l'accueil le plus obligeant à Déranville, à Rosalie, et le même jour, les 2 époux se rendirent rue de la Ferronnerie, chez leur oncle Durand, qu'ils trouvèrent presque à l'extrémité. Ce vieillard, seul maintenant sur la terre, était livré à des mercenaires qui lui prodiguaient les soins de l'intérêt. Dès qu'il sut que sa nièce et son neveu étaient arrivés, il recouvra ses forces pour les embrasser et pour faire un testament en leur faveur. Quelques jours après, il expira et Déranville se livra aux affaires de la succession, tandis que la bonne Rosalie songea, avec Victoire, aux pratiques de piété qu'exigeait, selon elle, le repos de l'âme du défunt. Tout se calma néanmoins peu à peu, et le séjour de Paris plaisant singulièrement à Déranville, il forma pour s'y fixer un projet que sa femme approuva. D'abord, il acheta un superbe hôtel, rue du Cherche-Midi, tout près de celui de son ami Briceval. Puis, ayant pris des laquais, il se forma une maison pour lui, ainsi qu'une autre pour madame, tout cela sans faste, sans prodigalité, mais d'un bon ton, et tel que sa fortune le lui permettait. Le voisinage de Briceval plaisait infiniment à nos époux. C'était un homme d'un commerce sûr, mais assez triste, et qui avait éprouvé des malheurs. Ses malheurs, il ne les avait jamais communiqués à personne, pas même à Déranville, ni à Rosalie, qui étaient ses amis les plus intimes. Briceval avait juré de les ensevelir avec lui dans sa tombe, et il vivait retiré, occupé uniquement de l'éducation d'un fils qui avait 5 ans et qui était l'unique fruit d'un hymen malheureux. Briceval était âgé au plus d'une 40aine d'années. Bien fait, aimable, il joignait à beaucoup d'esprit un grand fond de sagesse et surtout une exacte probité. Sa parole d'honneur une fois donnée, rien n'aurait pu la lui faire retirer. Il était franc, sincère, bon, sensible, généreux et surtout très délicat dans ses procédés. Briceval, en un mot, était un ami digne des estimables d'Héranville. Nos époux, de leur côté, habitués à une vie sédentaire et tranquille, ne voyaient que Briceval et sortaient rarement de leur quartier. Au bout d'un an de séjour dans le faubourg Saint-Germain, ils ne connaissaient pas encore les autres quartiers de Paris et, lorsqu'ils allaient au spectacle, ce qu'ils se permettaient rarement, leur voiture les y conduisait et les ramenait chez eux sans qu'ils se fussent arrêtés ailleurs. Ils vivaient donc heureux dans le sein de l'amitié et riches, tant de leurs propres fonds que de l'héritage considérable que leur avait laissé leur oncle Durand. Ils ne pouvaient s'habituer cependant à la privation d'un enfant, et leur fortune, plus que doublée, leur donnait encore des regrets de n'avoir point un héritier. 12 années d'hymen ne pouvaient calmer leurs regrets, et si Déranville avait renoncé au bonheur d'être père, Rosalie avait la preuve que toutes les neuvaines possibles à tous les saints du paradis ne pouvaient combler ses vœux. Il fallait se résigner et même se forger des motifs de consolation, des raisons pour s'applaudir de n'avoir ni l'embarras, ni les soins, ni les inquiétudes que cause toujours un être à qui l'on a donné la vie. C'est ainsi qu'on calcule en pareil cas. Cependant, quand Rosalie voyait une femme de la classe indigente obtenir de l'hymen 2, 4 et souvent 8 enfants que leur mère pouvait à peine nourrir, Rosalie s'écriait dans son langage dévot « Mon Dieu, pourquoi donnes-tu tant d'enfants à ceux à qui tu n'envoies point les moyens de les élever ? Pourquoi fais-tu tant de malheureux quand je te demande qu'un seul être qui serait si bien, si fortuné, si tendrement aimé ?» Elle était triste et ne pouvait voir sans envie le bonheur des autres mères, mais aussi, quand des maladies cruelles privaient ces mères de leurs enfants, Rosalie se consolait de n'en point avoir, car elle le sentait, la perte d'un fils chéri lui aurait coûté la vie. Un jour, Rosalie témoigna à son époux le désir de visiter quelques-uns des principaux monuments de Paris. On lui avait parlé de l'église Notre-Dame, de ses hautes tours, des chefs-d'œuvre de l'art qu'on y admirait. Rosalie demanda à commencer son examen par cette cathédrale antique qui, suivant ses goûts, piquait le plus sa curiosité. Déranville y consent et, pour comble d'agrément, Briceval demande à être de la partie. Nos époux acceptent son aimable société et tous trois montent en voiture. D'abord, l'aspect imposant de ce gothique monument charme les regards étonnés de Rosalie. Elle entre et la figure colossale de Saint-Christophe, qu'on a abattue depuis, fixe son attention. Son âme pieuse ramène ensuite ses yeux vers le cœur de l'église et elle s'agenouille pour faire sa prière, tandis que Déranville et Briceval examinent la statue équestre de Philippe le Bel. Un silence profond régnait dans l'église où méditaient seulement quelques fidèles. Tout à coup, Rosalie est distraite par ces mots qu'on entend prononcer très haut par une jeune voix. « N'oubliez pas, s'il vous plaît, les pauvres petits-enfants trouvés qui prieront bien le bon Dieu pour vous. » Rosalie se retourne et appelle son mari. « Mon ami, lui dit-elle, qu'est-ce que cela veut dire ? As-tu entendu ?» Le même cri recommence. Briceval s'approche. « Ce sont, madame, lui dit-il, les petits-enfants trouvés, élevés aux frais du gouvernement, qui demandent quelques secours aux âmes charitables. »« Où sont-ils »« Là-bas, suivez-moi. Est-ce que vous ne les avez pas vus en entrant ?» Rosalie, étonnée comme le sont tous les étrangers quand ils entrent dans un monument très vaste, n'avait pas remarqué, en effet, l'espèce de boîte ou de vaisseau dans lequel une religieuse lisait, entourée de 7 à 8 petits-enfants. Rosalie s'approche. « Qu'ils sont jolis » s'écrie-t-elle. « Ma bonne dame, n'oubliez pas les pauvres petits-enfants trouvés qui prieront bien le bon Dieu pour vous. » « Oh non, non !» s'écrie Rosalie. « Non, je ne vous oublierai pas, enfant charmant, intéressant, dont l'aspect m'attendrit jusqu'aux larmes. Tenez, prenez, prenez !» Elle ouvre sa bourse et la répand dans les petits tabliers de ses jolis enfants qui, d'un air sérieux, vont porter tout cela à leur gardienne. « Heureux âge !» poursuivit Rosalie. « L'intérêt ne parle point à ces jeunes cœurs. Ils prennent froidement l'heure qu'on leur présente. » Un jour, ils feront tout pour l'avoir, ils en sentiront le prix. Pour le moment, je crois que ceci leur plaira davantage. » Rosalie tire de sa poche une bonbonnière. Tous les petits yeux gourmands se fixent sur le bijou précieux. Elle l'ouvre et les petites mains s'allongent de tous les côtés. Rosalie dispense également ses bienfaits et le sourire voltige sur les lèvres de Rose de tous les aimables convives. Rosalie a vidé sa bonbonnière et elle s'aperçoit avec peine qu'un petit enfant est resté muet et pensif au fond de la crèche sans avoir osé se montrer ni s'avancer. « Pauvre petit !» dit Rosalie, « je t'ai oublié et malheureusement je n'ai plus rien. Aussi, pourquoi ne t'es-tu pas approché comme tes camarades ?» L'enfant rougit et baisse les plus beaux yeux du monde. « Tu rougis, mon ami ?» poursuit Rosalie. « Je t'ai fait de la peine, j'en suis fâchée. Attends, je vais t'en acheter, tu n'y perdras rien. » L'enfant s'approche, retient Rosalie par la main et lui dit « Non, madame, je n'en ai pas besoin. »« Quoi, tu n'aimes pas les bonbons ?»« Si, madame. »« Si, madame. »« Eh bien, mes camarades les aiment mieux que moi. » »« Après, je suis bien aise qu'ils les aient mangés. » « Bon petit cœur, regarde-moi, mais regarde-moi donc, la charmante figure. Comment t'appelles-tu »«
Jeannette, madame. »«
Jeannette ? Ah, c'est une petite fille. Et ton papa ?»«
Je n'ai point de papa, madame. Nos papas, nos mamans nous ont abandonnés. Nous sommes les enfants du bon Dieu. »«
Pauvre petit, il m'arrache des larmes. Les barbares !» Elles sont mères et elles abandonnent leurs enfants. Et moi, je ne suis pas mère. Oh, mon Dieu !
Dieu ne nous abandonnera pas. Il est le papa de tout le monde.
Charmant enfant, oui, Dieu est le père commun de tous ceux qui respirent. Il vous a pris sous sa protection. Nous ne prions que lui et nous le chérissons autant que nos bonnes mères de l'hospice.
Quelle facilité à s'exprimer !
« Quel âge, ma sœur ?»«
4 ans, répond la sœur gardienne. »«
4 ans, si jeune, et tant de présence d'esprit. Ces petits raisonnements me charment. Jeannette, viens, oh, viens sur mon cœur que je t'embrasse, que je te prodigue les tendres caresses que méritent ton sort et ton ingénuité. »
Madame d'Héranville embrasse l'enfant qui se prête à ses douces effusions.